Je vous propose, chers amis auditeurs, de partir à la découverte d'une nouvelle espèce de terrien, les locavores, avec Anne-Sophie Novel. Bonjour Anne-Sophie, vous pourriez nous expliquer ce que c'est qu'un locavore ?
Alors un locavore, c'est quelqu'un comme vous et moi, sauf qu'il a décidé de manger dans un rayon local, on va dire. Donc ce périmètre varie de 15-20 km à 200 km selon les régions. Et on pourrait lui donner le nom de mangeur saisonarien ou de pétrophobe.
Voilà. On va garder locavore, c'est quand même nettement plus sympa. C'est ça. Donc vous venez d'écrire le guide du locavore et c'est en plus une expérience personnelle. Pendant un an, vous avez réussi à manger local. Ça s'est passé comment ? Ça n'a pas été trop difficile pour vous et votre compagnon ?
Alors je l'ai fait de manière stricte pendant 2 mois. C'est-à-dire qu'on a vraiment réduit et scruté les étiquettes. Et après, au bout de 2 mois, j'ai réussi à me faire ma propre idée de ce que je voulais adopter comme habitude alimentaire, on va dire. Mais bien plus qu'alimentaire par la suite. Donc, c'est-à-dire que ne plus manger de chocolat et de parmesan pendant 2 mois, ça a été très dur. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Nous sommes humains et de tout temps, il y a eu des échanges de denrées alimentaires qui venaient de plus loin que notre périmètre, on va dire, local ou national. Mmh. Et donc, voilà, c'est un peu difficile parce qu'il faut du temps. C'est un petit peu ce que j'explique dans l'ouvrage, qu'il faut être prêt, qu'il faut du temps pour trouver les produits, pour aller les acheter, pour vérifier la provenance des choses, et puis pour cuisiner après, parce que bien souvent, lorsque c'est déjà tout préparé, c'est plus compliqué de trouver quelque chose de vraiment local, on va dire. Mmh.
Bon, on est d'accord, voilà. C'est pas de l'intégrisme, on va pas dire, je ne mange qu'une denrée qui va venir de moins de 200 km. Ouais. En fait, c'est vraiment une réflexion globale que vous conduisez sur une façon de s'alimenter autrement.
Oui, exactement. Et même, c'est pour ça qu'on a dit pour mieux consommer local, parce que il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, c'est une formidable porte d'entrée dans le développement durable, parce que ça interroge un geste que l'on fait tous quotidiennement. Mais après, je veux dire, ça peut s'étendre à nos achats plus quotidiens, on va dire pour décorer sa maison, pour s'habiller, pour d'autres types d'achats sur lesquels on peut aussi s'interroger. Et c'est en ça que c'était intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin et de voir aussi quelle est la philosophie finalement de vie qu'on peut en tirer derrière.
Alors justement, vous partez d'un constat et on se pose la question, pourquoi faut-il changer ?
Il y a plein de raisons et j'ai essayé d'en faire un listing parce que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes arguments, tout le monde n'a pas le même bagage culturel, la même éducation et autant certains vont entendre des arguments liés à la santé, d'autres ça va être aux pollutions générées par les distances parcourues, d'autres vont être plus sensibles à la préservation de l'économie locale. Donc c'était important pour moi de faire le point sur ces différentes dimensions qui se trouvent derrière les achats qu'on fait au quotidien et notamment derrière l'alimentation. Et à partir de là, chacun trouvera un écho, j'espère, dans peut-être au moins un de ses arguments, de ses raisons en fait de changer. Et puis après, choisira aussi la façon de changer qui lui sera la plus facile. Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au marché en semaine, parce que le marché bio a lieu à ce moment-là, ou autre. Hein, je veux dire, quand on ne peut pas aller faire ses courses autre part qu'au supermarché, il y a des supermarchés qui font des efforts, mais c'est pas tout. Donc on peut aussi commander sur internet un panier qui sera livré à un certain endroit tel jour, enfin voilà, c'est assez varié on va dire.
Donc pour commencer, quelqu'un qui voudrait se lancer et devenir un parfait petit locavore, qu'est-ce que vous lui conseillez ? Peut-être d'abandonner déjà l'habitude de faire ses courses en hypermarché ?
Oui, au moins, une première étape peut être de faire un bilan de ce qu'il mange, de retourner dans le supermarché, mais en se disant, maintenant, je vais prendre le temps cette fois-ci d'aller au supermarché, je vais prendre 2 heures devant moi, plutôt qu'une, et je vais regarder, retourner les paquets, et voir déjà, et constater que c'est difficile de voir la provenance des choses, et déjà, c'est se poser une question. À partir de là, on sème une petite graine qui va se nourrir de tout ce qu'on va observer par la suite, et puis par la suite, justement, on aura envie peut-être d'aller voir des marchés, de profiter d'une sortie nature pour aller rencontrer un producteur ou autre. Hein, c'est vraiment très personnel tout ça. Ou de changer de lieu, d'achat de supermarché, aller voir dans un bio, sachant que dans une épicerie bio, il n'y a pas forcément que des produits locaux. Hein, ça peut être limité aussi. On peut aussi critiquer les emballages. Enfin voilà. Donc c'est déjà y aller progressivement parce qu'on change pas du jour au lendemain. Ça c'est certain. Mais au moins à partir du moment où on commence à être conscient, à se poser la question, c'est déjà un très grand pas qui est parcouru. Et après, il faut essayer d'avancer comme ça régulièrement, on va dire.
Et donc, vous, personnellement, comment est-ce que vous avez fait pendant un an ? Donc, vous vous êtes dit, OK, il y a des choses que je veux quand même conserver, même si elles sont un petit peu plus exotiques ou un peu plus éloignées. Et après, quelle démarche avez-vous faite pour consommer en tant que locavore ?
Alors moi, j'allais déjà dans une épicerie bio. Donc, comme je disais, la première fois, ça a été compliqué parce que j'ai passé plus de temps que d'habitude et je me suis rendu compte qu'il y avait des produits type les lentilles, corail ou des oléagineux que je ne pouvais plus acheter ou même tout simplement les pâtes ou certains fromages. Donc ça, c'était première prise de conscience. Et après, il fallait que je refasse ma géographie aussi pour pouvoir déterminer les départements dans lesquels je pouvais m'approvisionner. Et puis après, moi, je suis allée sur les marchés. Donc voilà, il y en a le samedi, le week-end à côté de chez moi, mais qui n'est pas forcément bio. Il y en a un le jeudi matin qui est bio. Et donc, je suis allée, alors que je les côtoyais déjà, je suis allée en scrutant encore plus les étiquettes, en parlant avec les producteurs, en leur demandant d'où venaient leurs produits. Et puis, j'étais contente de trouver un petit producteur du Lot-et-Garonne qui fait ses propres pâtes, qui fait ses fromages, qui fait vraiment traiteur, où j'ai trouvé pas mal d'alternatives en fait à mes achats habituels. Et puis, mon alimentation a changé également, dans le sens où beaucoup croient que manger bio, il suffit de continuer à acheter ce qu'on fait de manière traditionnelle, mais version bio. Donc forcément, ils se retrouvent avec un panier qui coûte généralement un petit peu plus cher, mine de rien. Mais c'est aussi changer le contenu de son alimentation. Quand je dis réapprendre à cuisiner, c'est justement quand on doit s'attacher à cuisiner des produits de saison, on va aller acheter des légumes ou manger des fruits qu'on n'avait pas l'habitude de manger. Et donc, on va apprendre à cuisiner autrement, à rééquilibrer son alimentation aussi, vu qu'on n'est plus attiré, vu qu'on ne côtoie pas ou moins les supermarchés, on n'est plus attiré par le même type de plat tout prêt ou de cochonnerie, comme on dit entre guillemets. Et donc voilà, donc moi ça a été, j'ai envie de dire, assez simple, et c'est surtout que j'ai pris ça comme un jeu. Moi je me suis amusée à faire ça, donc c'était plus l'esprit plaisir. J'explique que quand j'ai commencé, on a fait tout un premier de l'an à la maison, on avait invité une trentaine d'amis fêter le premier de l'an, et on s'est amusé à faire un premier de l'an locavore, donc à n'acheter que des produits qui venaient de la région en Aquitaine, à se forcer à pas faire une grosse buse au chocolat, mais acheter que des clémentines. Enfin voilà, c'était faire une grande compote. Soit c'est ça, on a fait une compote d'ailleurs.
Et ils ont réagi comment, les amis ?
Ils étaient ravis, et puis ça changeait un petit peu. Et finalement, quand on a bien mangé, avoir une compote plutôt qu'une bûche, c'est pas plus mal. Et puis on avait fait appel en partie à un traiteur qui nous avait fait des plats avec des fruits et légumes qui venaient d'un périmètre proche de Bordeaux. Donc on s'était régalé, et du coup ça les a amusés qu'on leur explique que tout ce qu'on avait prix ne venait qu'un arrière local, et que c'était possible en fait, et que sans qu'on se casse plus la tête que ça. Et puis finalement, je me suis remise à cuisiner, chose que quand on n'a pas forcément le temps, on ne le fait pas. Mais au-delà de la cuisine, c'est aussi, alors moi j'ai pas d'enfant, mais je veux dire, cuisiner, c'est aussi prendre le temps le soir ou le week-end avec ses enfants ou en famille, d'être à deux ou trois ou quatre autour de la table, d'éplucher les légumes ensemble. En hiver, j'ai envie de dire, on dit tout de suite, c'est compliqué parce qu'en hiver, il y a moins de fruits et légumes de saison. Mais en été, toutes les tomates que l'on a, toutes les productions qu'on a en été sont très très riches et abondantes. Et on peut prendre un moment en août, en septembre pour faire des bocaux qu'on gardera et qu'on dégustera tout au long de l'année, et notamment en hiver. Et ça, j'ai envie de dire, pour les locavores, c'est pas très compliqué. C'est des bons moments en famille ou avec des amis, des moments de partage. Et l'hiver, ça fait des souvenirs, et on est content d'ouvrir des bocaux qu'on a fait soi-même. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis, il faut être déterminé, prendre ce temps-là et se dire, dans cette démarche de locavore, je veux aussi découvrir et reprendre le temps de certaines choses. C'était beaucoup pour moi le temps du savoir, du savoir-faire et des saveurs aussi.
Vous retrouvez un petit peu la démarche du slow food, vous luttez contre le fast food. En fait, on n'ouvre pas tout d'un coup une boîte ou quelque chose, on ne va pas acheter quelque chose de tout prêt. On va avoir un rapport différent avec la nourriture. Vous avez même fait des recettes aussi. Parlez-nous de votre recette. On est au printemps. Allez, votre recette de printemps préférée.
Moi, la recette que j'ai découverte, ça m'a plu. C'est pas une recette de printemps, c'est la recette d'hiver. C'est le clafoutis au kiwi. Parce qu'à Bordeaux, on n'est pas loin du Béarn, mais on a beaucoup de kiwis du Béarn qui sont délicieux, qui étaient même moins chers que dans le marché traditionnel. Et j'ai découvert la recette du clafoutis au kiwi. Pour moi, le clafoutis est un dessert d'été. Et en fait, mettre des kiwis dans une pâte à clafoutis, ça a un petit goût acidulé qui fait qu'on a un dessert d'hiver qui a un goût d'été. Donc ça, c'était génial. Après, on prend pas la laitue flandre ratatouille aux légumes de saison ou une salade toute bête avec des petits pois primeurs. Moi, j'ai mis des recettes qui sont quand même relativement simples. Et finalement, quand on cuisine, c'est pas forcément faire compliqué ou gastronomique. Moi, je fais des choses simples. Et c'est pour ça que je dis, on va découvrir Les saveurs, c'est aussi ça, c'est se dire je vais prendre un bon légume, le marier avec 2-3 autres ingrédients et faire quelque chose de très bon qui ne m'a pas demandé forcément beaucoup plus de temps que de mettre quelque chose au micro-ondes, quoi.
Quel est le pourcentage de votre nourriture qui est locale aujourd'hui ?
Voilà, je pense que c'est entre 70 et 80%.
Qu'est-ce que vous avez conservé qui ne soit pas local ?
Le thé, parce que je bois beaucoup de thé, ou les tisanes en général. Quoique les tisanes, c'est différent, parce qu'on a en Dordogne, il y a une petite productrice de plantes, et je m'approvisionne chez elle quand je peux. Le chocolat, j'ai envie de dire, un peu le parmesan. Et quand c'est pas local, alors il y a deux choses. Hein, c'est, moi, vraiment, la conclusion que j'ai de cette expérience, c'est toutes les denrées qu'on achète sur une base, on va dire, hebdomadaire, les produits frais, que ce soit fruits, légumes, mais aussi fromage, viande et poissons. Tant que possible les prendre en local, parce que ça c'est pas très compliqué, il y a du fromage un peu partout en France, quand même on a de la chance, on a une belle biodiversité dans l'assiette. Pareil pour les viandes, pour les poissons, bon, c'est un peu plus compliqué, et à ça j'ai envie de dire se superposent des problèmes de surpêche et de disparition des espèces, donc on doit être vigilant. Non pas seulement aux espèces qui disparaissent, mais aussi aux saisons de reproduction. Et ça, j'ai essayé d'insister dessus, parce qu'on parle souvent des fruits et légumes de saison, mais beaucoup moins des fromages de saison et des viandes et des poissons de saison, parce que mine de rien, il y en a aussi indirectement. Pour tout ça, faire attention. Mais après, pour des produits d'épicerie, des choses qu'on achète et que l'on va écumer en un peu plus de temps, finalement, comme on les achète moins souvent, on peut peut-être se permettre d'étendre un peu le périmètre quand on n'a pas la solution sous la main. Donc, moi, je vais dire, quand je suis pas à Bordeaux, que je dois acheter des pâtes, j'essaie de favoriser des pâtes qui sont faites en Alsace, par exemple, du riz de Camargue ou des choses comme ça. On défend quand même aussi le terroir français. Avec une limite, parce que quand je dis ça, je pense toujours au protectionnisme, parce que certains reprennent les propos, on va dire, tenus par les adeptes du locavorisme à des fins nationalistes et protectionnistes, alors que les deux choses sont bien différentes. Les premiers agissent, j'ai envie de dire, à des fins de protection de l'environnement, de préservation d'une économie locale. Les autres vont dire, nous on protège l'économie locale, mais on va même pas acheter en Espagne, alors que moi, si tu es à Bordeaux, je préfère des fois acheter des produits du nord de l'Espagne que du nord de l'Alsace.
Absolument.
Donc y a une vraie différence à ce niveau-là, il faut surtout pas faire la confusion.
Est-ce que ça coûte plus cher d'être locavore ?
Non, enfin pour moi non, parce que d'ailleurs maintenant ça me surprend, parce que il m'arrive de retourner dans des supermarchés de temps en temps quand j'ai pas le choix et que voilà, et à chaque fois je suis sidérée par le prix de mon ticket de caisse. Alors peut-être parce que du coup maintenant comme je suis exigeante et dans les supermarchés ce qu'on trouve en bio ou local représente un surcoût mine de rien, mais être locavore moi ça me coûte vraiment pas cher, parce que justement je vais sur des petits marchés de producteurs que je vais acheter peut-être en grande quantité et cuisiner et en garder de côté, mais ça me coûte vraiment pas plus cher.
Est-ce que vous avez fait des émules parmi vos amis, ceux que vous avez invités au réveillon? Ils sont jamais revenus, ils étaient pas libres l'année d'après?
Si, en fait, on fait des émules, et puis j'ai envie de dire, j'ai offert le livre à certains amis, certains l'ont lu, certains m'ont aidé à le relire. Certains étaient déjà convaincus et étaient locavores sans qu'ils se reconnaissent en tant que tels. Hein, j'ai envie de dire, c'est un mot qui est américain en plus, donc et pas très beau en français. Certains me disent, c'est vraiment très intéressant, moi-même je fais des efforts, et j'espère pouvoir les amener à faire encore plus attention, mais je suis pas donneuse de leçons, donc en général je distille quelques petites infos à travers moi ce que je fais, hein. Je préfère être exemplaire entre guillemets, parce que c'est encore tant que possible, et dire aux autres voilà c'est faisable, et plutôt que faire ça tu pourrais faire ça. Après je laisse les gens cheminer à leur rythme.